Bonjour à tous et bienvenue sur La Rage, la radio-animation jeunesse sur le 97.4 FM pour cette émission en direct, toujours de l'accueil jeune de Sorini. À la table, Naïs, animatrice jeunesse sur Artane, moi, Benoît, animateur jeunesse sur Saint-Bran, et Gérard Vanost, le président de l'association Nature et Environnement de Sorini. Naïs, je vais te laisser présenter cette association.
Alors oui, l'association, elle a été créée en 1978. Par l'ancien bureau. Monsieur Van Host, si mes souvenirs sont bons, vous êtes arrivé il y a un peu plus de 10 ans dans cette association. Et moi, je voulais savoir en priorité les premiers projets que vous avez débutés.
On a vu arriver un gros projet qui s'appelle Isoparc. Il a fallu s'intéresser à autre chose que les plantes et les petites bêtes.
C'est sûr. Savoir pourquoi il allait être là et comment il allait s'implanter, je suppose.
Voilà, alors comme c'était un... On voit maintenant qu'Isoparc, effectivement, c'est important. C'est une grosse emprise sur des terres agricoles, mais qui étaient aussi des terres assez pastorales avec des bois, des mares, et puis aussi
tout
une ferme
un
historique.
Du coup, ça venait aussi freiner, je suppose, du coup, les fossés étaient travaillés, chose qu'il n'y a peut-être plus aujourd'hui en campagne.
Voilà, donc c'était la disparition finalement d'un système agricole qui n'était pas très intensif à cet endroit-là pour implanter et artificialiser les sols. Donc on a défendu un certain nombre de principes environnementaux sur Isoparc. Et d'ailleurs on s'aperçoit qu'aujourd'hui Isoparc n'est pas une zone industrielle comme les autres, qu'elle a beaucoup d'espaces verts, qu'elle a des continuités écologiques, et qu'on a préservé l'histoire des lieux en maintenant la ferme du château de Thé et les douves du château de Thé en état et en ayant le projet de restaurer le pigeonnier. D'accord. C'est l'une des plus vieilles demeures de la commune.
Donc ça a été une des premières actions. L'idée, c'était de conscientiser peut-être les habitants autour de l'implantation de cette zone d'activité.
Alors, on a effectivement mis sur la place publique le projet et on a montré un certain nombre d'aspects de ce projet qui méritaient d'être revus. Donc, il y avait effectivement, dans un premier temps, l'aspect environnemental, mais il y avait aussi la politique de commercialisation de la zone. Au départ, c'était réservé pour implanter des entreprises de type Céveso.
Céveso, ça veut dire ?
Alors, Céveso, c'est... On va faire un parallèle avec l'actualité qui est connue en France, c'est AZF.
AZF.
Oui.
Oh, Naïs, Naïs.
Donc, Céveso, c'est une grosse entreprise chimique qui a eu un incident industriel et il y a eu l'empoisonnement de la population qui était autour par un nuage chimique.
D'accord.
Donc, les Céveso, ce sont des entreprises qui présentent un danger important. Okay. Pas forcément une pollution quand elles sont en exploitation, mais un danger en cas d'incident
pour les habitants.
Technologique. Okay. Un danger pour les habitants. Donc on a trouvé que c'était pas raisonnable de mettre ça aux portes du bourg de Sorigny, entre Sorigny et Montbazon, parce qu'il y a aussi les habitants de Montbazon. Et puis pas loin, il y avait les habitants de la Lande, sur
Bien sûr.
Oui.
Au camp de la Lande,
oui. Oui.
Toute la zone en haut.
Donc
là.
On a trouvé que non, c'était pas l'endroit pour implanter ce type d'entreprise et d'en mettre plusieurs les unes à côté des autres, parce que c'était ça l'objectif de départ. Tout ce qu'on voulait pas ailleurs, le ramener à Sorigny.
Bah, puis l'idée, c'était bien sûr de rentabiliser cette zone d'activité où on vendait des terres pour des entreprises.
Oui.
Donc après, effectivement, si on venait les tasser les unes sur les autres, je pense que du coup, on vendait plus de terres.
Oui,
peut-être qu'il y avait ça.
Et puis d'accueillir les entreprises que les autres ne voulaient pas ailleurs, c'est assez facile, c'est vendeur.
Bien sûr.
Donc on s'est opposé à ça, les gens de Sorigny s'y sont opposés, donc le règlement de zonage dit que non, il n'y aura pas de Céveso sur cette zone.
Ok, et juste pour savoir où on peut implanter du coup ces entreprises.
Alors, on ne peut pas les implanter les unes à côté des autres parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un effet domino. C'est-à-dire que quand une entreprise Céveso a un gros incident, sa voisine d'à côté risque aussi de partir avec des soucis.
Okay,
c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec AZF. Il y a deux entreprises qui ont explosé. On ne sait même pas laquelle la première a fait exploser la deuxième qui a commencé.
Donc il y en a quelques-unes, mais elles sont...
Alors il y en a. Il y en a plusieurs sur le département. Donc il y a Primagaz à Saint-Pierre-des-Corps. Il y a les deux dépôts pétroliers à Saint-Pierre-des-Corps. Mmh. Il y a Arche Water vers Amboise, par là, qui fabrique des produits pour les piscines. Il doit y avoir Socagras à Saint-Antoine-de-Rocher.
Il n'y a pas quelque chose à Mont aussi?
Non, il n'y en a plus à Mont. Il y a Nitro Big Four qui fabrique des explosifs sur une autre partie du département.
Je pense que ce sont les seuls. Des explosifs.
Voilà, ce sont
c'est
les
rassurant.
Le CEA n'est pas Céveso. Ils ont plus suffisamment, ils ne représentent plus un risque suffisant pour être classés Céveso.
Donc Isoparc, ça a été un de vos premiers combats en tant que président d'association. Je suppose que des gens ont joint l'action. Clairement, vous avez dû étoffer vos membres. Et... Allez-y.
Oui, donc effectivement, là, on est passé de la dimension communale à une dimension intercommunale, puisque les gens de Mont se sont sentis concernés, les gens de Montbazon aussi. Et donc, c'était une action en commun avec ses voisins, finalement, d'Isoparc.
Il y a dû y avoir quelques réunions publiques, débats.
Il y a eu des réunions publiques très houleuses.
Bien sûr.
Il y a eu des pétitions. Et puis, on s'est déplacé aux enquêtes publiques. Et on a fait aussi, dans les réunions publiques, des contre-expositions. On a pris la parole quand on n'y était pas invité. On a fait plein de choses.
Le contre-pouvoir, quoi.
Oui.
Très bien. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses que vous avez pu mener sur vos différents mandats de président?
Alors, on a eu récemment, ce qu'on voit maintenant se matérialiser, c'est le chantier de la construction de la ligne
LGV.
Donc là, on a commencé à s'y intéresser vers... Il y a ça presque 10 ans.
Ah oui, alors quand on en a parlé, il n'y a pas si longtemps.
Quand il a fallu positionner les premiers tracés, parce qu'il y avait plusieurs faisceaux. Il y en avait un sur Saint-Bran, il y avait celui-ci là, qu'on voit maintenant se réaliser, et il y en avait un plus vers Villeperdue-Toulouse. Donc là, il a fallu répondre un petit peu aux enquêtes préliminaires pour savoir où ça allait se positionner. Donc on a commencé à s'en inquiéter à ce moment-là. Et après, sur les projets qui sont arrivés sur le fuseau qu'on a là, c'était une bande de 500 mètres de large. Donc, il y avait encore de quoi discuter où ça se positionne. Et le premier projet prévoyait de passer sur Sorigny, à peu près là où ça passe, mais de passer par-dessus les voies de l'échangeur. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, la ligne LGV, elle passe au même niveau que l'autoroute. Le premier projet, c'était une grande rampe pour passer par-dessus les voies de l'échangeur.
Quelque chose de très esthétique.
Oui, et puis qu'on ne peut pas compenser. Quoi. les trains, les passer au-dessus des arbres. Quoi. Donc on ne peut plus rien planter, on ne peut plus mettre de talus quand ça passe en hauteur. Donc il y avait ça, il y avait l'embranchement sur Mont. Les gens de Mont ne voulaient pas d'un embranchement ferroviaire, le raccordement de Mont qui est en train de se faire, démarrer de la gare de Mont dans les habitations et le lotissement. Il fallait casser dedans. Donc les gens de Mont ne voulaient pas que ça démarre aussitôt. Et les gens de Villeperdue avait aussi des doléances par rapport au raccordement. C'était le village des Bris. Et si le raccordement allait trop loin, il passait au-dessus du village des Bris, pratiquement.
Au-dessus du village?
Oui, à côté, à côté, mais à hauteur. Okay. Au-dessus du toit des maisons, quoi.
Sympa.
En termes de niveau. Donc on a fait des réunions en commun, les associations, plutôt que se renvoyer le problème terrain, chez les voisins, ouais. On s'est mis d'accord sur quelque chose qui satisfasse tout le monde.
Ben oui, parce que je me doute que sur ces sujets-là, vous n'êtes pas les seuls à vouloir du coup vous faire entendre, ramener vos arguments dans le débat public. Je pense qu'il y a différents collectifs qui viennent se joindre à vous.
Alors, on a fait un collectif. C'est-à-dire qu'avec une association de Mont, l'association de nature environnement de Sorigny et l'association de Villeperdue, on a fait un collectif et on y a fait rentrer dedans la Fédération des associations de protection de l'Indre-et-Loire. Et ce qui nous a permis de pouvoir participer à la concertation et d'être admis dans des réunions à la préfecture où on puisse parler technique.
Et puis que votre voix soit entendue.
La voix soit entendue. Et comme on avait un projet commun entre les associations et qu'on défendait quelque chose qui était aussi réalisable, donc ça s'est fait. Et quand c'est arrivé en enquête publique, tout ce qu'on avait demandé était déjà dans le projet qui avait été modifié, quoi.
Comme de par hasard.
Bah oui. Quand on accepte la concertation assez tôt, on peut peut-être arriver à faire prendre les choses en considération avant les phases finales.
Je vous propose une petite pause musicale avec un petit groupe tourangeau qui s'appelle Padawin, Electro Dub. Voilà, le morceau s'appelle Padabitch. À tout de suite.
Nous revoilà sur la rage. Je suis toujours en compagnie de Monsieur Van Host.
Van Host. Ça passe.
Ça passe.
Allez.
Van Host, Gérard, le président de l'association Nature et Environnement, et Benoît, l'animateur de Saint-Bran. Je rappelle que vous pouvez toujours nous écouter sur la-rage.fr. Nous laissez aussi des petits commentaires sur Facebook, il n'y a aucun souci. Nous sommes toujours à l'accueil jeune. Je vous invite, on vous invite à venir boire un café. L'animateur Pierrick sera ravi de vous servir un petit café.
Bah, puis au-delà du café, ça vous permettra surtout d'assister à comment se passe une émission de radio aussi. L'idée, c'est quand même celle-ci, plutôt que de boire un café.
Aussi, mais
on vous rappelle aussi que vous êtes sur le 97.4 FM et qu'on est chez vous à Sorigny toute la semaine du 14 au 21 avril. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est nous, c'est la rage.
C'est ça, bien dit. On va continuer sur les projets du coup de l'association. Il y a un projet qui m'a paru un peu... le nom me paraissait un peu bizarre. C'est le développement de l'agroforesterie. Alors déjà, avant que vous continuez, je vais déjà préciser ce que c'est. Donc c'est un mode d'exploitation de terres agricoles associées à des plantations d'arbres et de cultures ou de pâturages.
Bah, c'est bien dit.
Bah, j'ai fait des recherches parce que franchement, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me suis dit, c'est pas possible, faut que je sache.
Finalement, ce sont des cultures qui se font entre des rangées d'arbres, suffisamment espacées pour que le matériel agricole puisse passer. Et l'arbre apporte un bénéfice à la culture.
C'est ça. On a eu tout à l'heure mon collègue Benoît qui a eu une petite information sur ça. Enfin, il nous a donné toutes les informations sur... Il le connaissait par cœur, l'agroforesterie. Alors, expliquez-nous un peu ce que vous faites, vous.
Alors, ce n'est pas un projet en tant que tel de l'association. Le projet, c'est de faire découvrir autour, dans notre secteur, dans les communes voisines, des exploitations agricoles qui correspondent à...
Une certaine éthique.
Une certaine éthique et un modèle agricole de production qui soit respectueux de l'environnement. Donc, dans ce cadre-là, on s'intéresse à l'agroforesterie, qui se développe, qui est en expérience depuis quelques années sur la commune de Mantelan, et c'est aussi un élevage de poules bio. Donc on voit qu'effectivement, on va mettre en relation, finalement, nos adhérents et les gens qui vont nous suivre dans ces visites-là, on va les mettre en relation aussi avec un fournisseur de bio. Et puis on a fait la même démarche pour, par exemple, une chèvrerie bio, le cabriolet sur Sainte-Maur, SEM, où aussi, là, on voit un modèle d'élevage qui est tout à fait intéressant, qui respecte la nature et qui, en même temps, donne des produits de qualité et qui sont accessibles à ceux qui vont aller directement à la ferme faire les achats ou passer par les AMAP.
Pour tous.
Voilà, on a fait venir aussi à l'association un producteur de viande bovine, qui est sur Sainte-Catherine, un autre producteur en bio qui est de Saint-Épin. Donc on essaye de faire connaître aux adhérents de l'association un certain nombre de producteurs et de bonnes pratiques agricoles.
À vous entendre, j'ai le sentiment que votre association est basée sur Sorigny, mais que vous avez un cadre d'intervention qui est sacrément étendu. Je vous entends parler de Sainte-Maur, de Mantelan, qu'est-ce qu'il y avait aussi, Mont, oui. Saint-Bran. Comment vous faites?
Alors déjà, on s'aperçoit que quand on a créé l'association, c'était Sorigny. Mais qu'après, avec les projets qui se sont développés en périphérie, fallait aussi s'associer et grossir avec des gens de Mont, de Montbazon, de Villeperdue pour pouvoir peser. Et on s'aperçoit aussi que si on veut faire montrer des choses et faire agir, on a des partenaires qui ne sont pas que sur la commune.
On ne peut pas, et puis sur des actions qui doivent être collectives, on ne peut pas rester, concentré autour de son village. À un moment donné, pour faire porter sa voix, il va falloir certainement étendre son discours dans le débat public pour faire adhérer les gens aussi.
Oui, et on s'est mis un peu à l'échelle des communautés de communes.
Bien sûr.
Et on se met à l'échelle de ce qu'on appelle aussi les pays. Donc on se régionalise. Alors, je n'ai pas parlé non plus... qu'on est adhérent à la CEPANTE, Société d'études de protection et d'aménagement de la nature en Touraine, qui est la Fédération des associations de protection de l'environnement, qui est elle-même reliée à Nature Centre et à France Nature Environnement. Donc on fait partie du réseau France Nature Environnement. C'est aussi une ouverture pour aborder un certain nombre de thématiques et avoir des éléments de réflexion.
Oui, c'est ça, c'est aussi un maillage de réseau, quoi. Enfin, ça vous permet de faire avancer votre réflexion, de pouvoir utiliser peut-être tel spécialiste qui va intervenir sur un débat public ou mener une étude, c'est aussi ça.
Alors, ça nous, c'est exactement ça. Ça nous permet de recueillir, d'utiliser les compétences et le travail qui a été fait par le réseau et de se les approprier plus facilement. Ça a permis, par exemple, quand on a fait venir Marie-Monique Robin récemment, dans une salle où pouvant accueillir 250 personnes, ben on l'a rempli parce que l'information elle est passée par le réseau.
Bravo, parce que c'est pas rien quand même, remplir la salle des fêtes de Sorigny.
Voilà. Alors on a un plus petit projet là, c'est sur le zéro déchet à la maison. C'est-à-dire comment on fait pour ne pas avoir de poubelle grise. Donc ça va être le 28 mai à Sorigny, on fait venir quelqu'un.
C'est possible ça ?
C'est possible, ouais, voilà, je voulais poser la question.
Ah, oui. Là, franchement... Alors il y en a qui arrivent, alors c'est savoir comment ils font.
Oui, quand on est dans un appartement, quand on n'a pas de jardin, est-ce que c'est vraiment possible ?
Alors, effectivement, le gros de la poubelle, c'est le fermentescible, c'est les épluchures. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment on fait ?
Moi je sais qu'on peut donner tout à une poule, mais dans mon appartement ça va être compliqué d'avoir une poule. Ouais.
Alors après il y a effectivement le compostage, mais quand on vit en habitat collectif, il n'y a pas de composteur collectif. Donc il y a beaucoup
pourrait
de...
y avoir,
il
en
pourrait
tout cas,
y avoir.
Il pourrait y avoir.
Dans d'autres pays, en tout cas que la France, ça se fait déjà.
Et dans certains pays, il y a même un ramassage des fermentescibles. Bien sûr. Il y a une poubelle exprès pour ça, pour faire du compost et ramener ça sur les terres
bien
agricoles.
Sûr.
Chez nous, en France, non, ça ne se fait pas. C'est pas généralisé, si ça se fait ça doit être très marginal. Alors à la campagne comme là Sorigny où on est en habitat individuel, Sorigny, Montbazon, Mont, on est quand même beaucoup sur de l'habitat individuel,
plus de facilité.
On doit pouvoir effectivement arriver à retourner les épluchures au jardin à travers le compost ou les différentes techniques, mais ça vide pas complètement la poubelle grise.
Oui. Il reste encore des choses.
Il reste des choses. Alors, comment font ceux qui arrivent à en avoir moins ?
Oui, c'est ça, parce que moi, la question, bon, épluchure, etc., compost, les vers qui mangent, etc., tout ça, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est pas tant, en fait, ces matières organiques. Le problème, c'est plutôt les packagings, quoi, le plastique, le carton.
Conserve.
Si... Alors, et en même temps, ça ne se retrouve pas directement dans la poubelle grise. Voilà, mais nous, consommateurs, on doit certainement, à un moment donné, porter notre voix contre les fabricants.
Alors il y a soit cette attitude-là, soit dire c'est on demande, on fait de la pression, du lobbying sur les fabricants pour qu'ils changent le packaging, soit c'est nous qui changeons de façon de consommer. Parce que consommer, c'est voter.
Bien sûr.
C'est choisir un mode de production. Alors ceux qui ont avancé dans la démarche, ben, ils vont davantage au marché. Donc ce qu'on achète au marché, si on y va avec son cabas, c'est ça qu'on ne revient pas avec des petits sacs plastiques.
Voilà, on réutilise nos sacs.
Si on va dans des magasins où il y a de la vente au détail, enfin en vrac, on y va avec ces petites boîtes et on met dans ces boîtes. Donc on ne revient pas avec un emballage. Et il y a certains qui ont testé à Sorigny, au Simply Market, d'aller avec la boîte pour mettre le jambon blanc et de dire le jambon blanc, vous ne me le mettez pas dans un papier, vous me le mettez dans mon tupperware à moi.
Et ça fonctionne.
Il n'y a pas eu d'histoire, ça fonctionnait bien.
Moi, je vois pas pourquoi, même eux, ils sont gagnants aussi.
Bah oui. Donc finalement, en changeant un petit peu nos habitudes, on peut diminuer. Je dis pas qu'on peut faire zéro.
C'est sûr, oui, parce que...
Bon, il y en a qui, celui qui fait la promotion de ça, effectivement, il y arrive.
Je suis d'accord. Mais moi qui suis dans mon appartement et c'est vrai que le tri sélectif, j'avoue à la radio que...
C'est pas facile.
C'est
hein.
pas facile du tout. Il faut avoir plusieurs poubelles. On n'a pas toujours la place. Mais après, je pense que c'est aussi une grosse volonté des gens. Et quand on veut, on peut. Donc, il faut juste coup de pied au derrière. Ça fait pas.
Alors, la volonté, c'est. On ne peut pas d'un seul coup monter toutes les marches.
Non, pas toutes les marches, mais rien que faire le tri sélectif.
Voilà. Faire un petit peu.
Déjà.
Faire un petit peu. Quand
serait,
on a. Voilà.
Ça serait limite.
Avoir l'objectif d'en avoir fait un petit peu, en disant qu'est-ce que je peux améliorer qui ne me coûte pas trop, que je peux faire. Après, quand ça s'est fait, on peut se reposer la question, est-ce que je peux encore faire quelque chose d'autre ? Mais je pense, moi, que l'étape, peu par petit bout, c'est comme ça qu'on y arrive. Mais en se disant, demain, je change quelque chose. Demain, je fais quelque chose. Petit, mais je le fais, demain. Pas dans 8 jours, dans 15 jours, je le fais demain. Petit et demain.
Ok, j'achèterai une poubelle jaune.
Il va nous rester très peu de temps. En tout cas, c'est une émission qui est hyper intéressante et c'est dommage que ben on soit bloqué par le temps. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'était ben vos prochaines actions, histoire qu'on puisse aller à votre rencontre, savoir s'il était prévu, je sais pas moi, une réunion prochainement, une action, quelque chose.
Alors donc 28 mai qui arrive là, ça va être sur comment diminuer sa poubelle grise, comment on fait ses achats pour diminuer sa poubelle grise, ça sera à Sorigny. On a sur la parcelle de Aux Arpents, on aime bien aussi faire de la botanique, apprendre à reconnaître les plantes. Donc début juin, mais on n'a pas encore fixé la date, ça dépend à quelle vitesse on va voir les plantes revenir là après au printemps. On va aller faire une sortie botanique sur la parcelle de Aux Arpents pour apprendre à reconnaître les plantes.
Donc ça, les Aux Arpents, voilà. Naïs, c'est un petit peu plus loin que le centre-ville de Sorigny, c'est un peu plus loin, direction, je vais dire, de Sainte-Maure, oui. Hein, mais c'est très proche de Sorigny. Un petit étang avec des bois tout autour et puis tout un écosystème.
Et c'est vous qui avez planté les plantes du coup ?
Alors là, c'est très intéressant parce qu'au départ, c'est, l'histoire elle commence en 1976 de cette parcelle. C'est un délaissé agricole. C'est-à-dire quand il y a eu un remembrement en 1976, les bouts de chemin qui étaient communaux et qui se sont retrouvés dans les parcelles agricoles et qu'on a supprimés, les agriculteurs les ont redonnés à la commune, mais dans un recoin incultivable.
D'accord.
Et la commune, finalement, en 1978, a concédé, on a passé une convention, et donc c'est l'association Nature Environnement qui avait à gérer cette parcelle. Donc c'était un ancien champ agricole, et quand on y va 35 ans après, la nature a repris ses droits, toute seule. Oui. On a essayé de faire des choses, mais nous, on n'a pas réussi. Par contre, la nature toute seule a fait des choses magnifiques. Donc maintenant, on va passer à l'inventaire. C'est-à-dire, quand la nature se réintroduit quelque part, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a de la diversité ? Est-ce qu'on a des choses intéressantes ? Qu'est-ce qui caractérise le milieu ? Bon, on sait que c'est une zone humide parce que c'était plein de flotte. Donc là, on va aller voir un petit peu. Bon, on y est déjà allé, mais on va jeter un œil avec des gens plus aguerris que nous pour repérer les plantes rares. On a déjà fait un inventaire des mousses. Donc il y a les lichens à faire, par exemple. Mais c'est joli, d'accord, à la loupe, tout ça, à regarder.
Allez, ça sera la dernière question, en tout cas pour ma part. Est-ce que vous mettez en place des actions auprès de différents publics, je vais dire scolaires, accueil jeunes, etc., centres de loisirs? Est-ce que c'est un public que vous souhaitez travailler avec?
Alors, on souhaite travailler avec tous les publics parce qu'on aime bien chercher à convaincre. On n'est pas juste un groupe de puristes autour d'une idée, mais effectivement que les gens s'approprient un certain nombre d'actions et qu'on modifie notre comportement général par rapport à l'environnement, à la nature. Et d'aller vers les autres publics, c'est intéressant. Mais c'est difficile à faire, ça demande du temps, de l'investissement. C'est des coopérations à monter à long terme. Mais à chaque fois qu'on l'a fait, on a été vraiment heureux. On a emmené, il y a de ça 2 ans, les enfants de l'école maternelle faire le tour de la parcelle des Hauts Arpents. L'objectif, c'était d'apprendre à reconnaître 5 arbres différents, avec soit les fruits par terre, soit les feuilles. Et tout le monde en ressort est extrêmement content quand on a ça. On a eu, il y a de ça très longtemps, l'accueil jeune qui est venu nous aider. C'était que du bonheur, tout ça.
C'est vrai, moi, travaillant à Sorigny entre 2006 et 2009, à l'époque, il y avait un groupe de jeunes qui s'était monté en junior association. Et à l'époque, monsieur le maire était monsieur Pala. Et c'était dans le cadre d'un chantier de jeunes où ils étaient allés peut-être déforester un peu trop, mais non pas trop. L'idée, c'était de trouver le juste milieu, justement, de façon à ce que la nature puisse pousser et enlever les nuisibles, entre guillemets, on va dire. On y était allé, au moins 3 ou 4 après-midi, quelque chose comme ça. Et puis la contrepartie, après avoir découvert certaines plantes et certaines espèces animales, l'idée c'était de se faire plaisir avec l'argent qu'ils avaient pu récolter. Voilà.
Ok, je ne savais pas.
Voilà. En tout cas, on vous remercie, Naïs également, pour cette émission.
Merci beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses.
J'espère que les auditeurs également. On va continuer notre grille de programmation. Pour l'instant, on va vous laisser avec un petit morceau des Rum Runners. Le morceau s'appelle The Bad Death.